un journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Des jeunes du monde entier inquiets pour le climat et souvent réellement angoissés par les prévisions des scientifiques et par les catastrophes qui frappent déjà l'humanité de manière extrêmement violente. Aujourd'hui s'ouvre un week-end de mobilisation globale dans la perspective d'un sommet mondial qui doit se tenir lundi à New York. Reportage dans le cortège parisien de la troisième journée des jeunes pour le climat par Véronique Robérotte. Sur la même thématique, nous irons en Allemagne. Transport, prix du CO2, rénovation thermique, agriculture moins destructrice à Berlin. La coalition d'Angela Merkel a fini par approuver aujourd'hui un plan de protection du climat dans lequel elle prévoit d'investir au moins 100 milliards d'euros d'ici 2030. À la fin de ce journal, l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur l'utilisation par la police égyptienne de matériel français dans ses missions de maintien de l'ordre, ça pose problème. Enquête signée Abdellah Kelledrissi. Des centaines de milliers de manifestants dans les rues du monde entier ce vendredi. C'est la troisième journée de mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat. Journée qui lance un week-end entier de mobilisation jusqu'à lundi qui verra se tenir un sommet international sur le climat à New York. Dans les rues des capitales du monde entier, la jeunesse défile pour tenter de mobiliser responsables politiques et décideurs économiques accusés à peu près tous au même niveau d'inaction climatique. Ils étaient 2500 à Rennes aujourd'hui. Et puis à Paris, de Nation à Bercy, on a compté à peu près 10 000 manifestants. C'est un comptage du cabinet Occurrence spécialisé dans le comptage des manifestations. Reportage pour France Culture de Véronique Robérotte.
Ils étaient quelques-uns comme Maria à manifester un jour de travail. Sans même poser une RTT, c'est son employeur qui lui permet de se mobiliser pour le climat.
On n'a pas le choix, les calottes sont cuites, il faut vraiment, vraiment se dépêcher. Et donc aujourd'hui, moi je suis avec mon entreprise, Back Market, une entreprise de produits reconditionnés, donc verte. Et donc on nous a donné un peu la demi-journée pour venir manifester. On peut tous le faire. Bah, déjà j'ai un téléphone reconditionné. C'est des petites choses, mais on n'y pense pas tout de suite.
Beaucoup de banderoles et de slogans pour dire que c'est bien le système qu'il faut changer et pas le climat. Le système capitaliste qui ravage la planète. Pierre est étudiant à Paris Diderot.
Malgré les incendies continuels en Amazonie ou en fait même en Afrique, le gouvernement il a essayé de se teindre en vert. On a entendu Macron dire « oui, je suis devenu écolo, on va changer les choses ». Par contre, on voit qu'il ne se passe absolument rien. Le projet de la montagne d'or en Guyane continue, on va raser des centaines d'hectares pour rentabiliser les profits de quelques actionnaires. Là, ils attendent une rentabilité de 30% pour le projet montagne d'or. En fait, le seul moyen d'apporter une réponse à ça, c'est en montrant non seulement notre désaccord dans la rue, mais aussi potentiellement à terme, pourquoi pas, d'établir un vrai rapport de force avec ce gouvernement-là, qui en fait ne nous écoute pas et ne fera rien sans qu'on les force.
Elles crèvent de chaud dans leurs habits rouges et sous leurs barbes blanches. Julie et ses amis distribuent des cadeaux qui n'en sont pas vraiment.
Nous, en fait, on est le Père Noël du climat ou le Père Noël de la surconsommation au choix. Et en fait, on offre des cadeaux empoisonnés. Est-ce que vous voulez un cadeau empoisonné de notre part ?
Il vous en reste ?
Oui, alors il va falloir s'adresser à la hotte du Père Noël, la hotte H-O-T.
Faites voir. Donc, il y a une belle boîte avec une tête de mort dessus. Voilà, on vous donne par exemple un bon pour devenir migrant climatique.
Héloïse, 12 ans, est venue avec son frère et sa maman. Elle ne comprend pas l'acharnement de ceux qui nous dirigent à détruire la planète.
Je trouve ça idiot de nous protéger, nous surprotéger et détruire en même temps sur ce quoi on va vivre. Ils parlent de nous protéger, mais ils font l'inverse. C'est un petit peu stressant. Ça me donne l'impression que dans quelques années, il n'y aura plus rien. C'est vraiment stressant.
Et beaucoup ont prévu de manifester à nouveau demain.
Reportage pour France Culture de Véronique Robérotte à Paris. La plus grande expédition scientifique jamais réalisée dans l'Arctique entame ce soir une mission internationale d'un an. Il s'agira d'étudier sur place les conséquences du changement climatique particulièrement visible au pôle Nord. C'est l'institut allemand Alfred Wegener qui dirige cette initiative. En Allemagne justement, se détaillait aujourd'hui une réponse politique à toutes ces inquiétudes soulevées à travers le monde pour l'avenir et les conditions de vie de l'humanité tout entière. Sous la pression de manifestations massives dans tout le pays. Depuis des mois, les partis de la coalition menée par Angela Merkel ont fini par s'accorder sur les grands points d'une stratégie climatique dont les principales dispositions ont été détaillées en début d'après-midi depuis Berlin. Écoutez la correspondance de Ludovic Piétenu.
C'est une somme qui sonne 50 milliards d'ici à 2023, 100 milliards d'ici à 2030. L'idée est de montrer que le gouvernement allemand ne lésine pas, qu'il est prêt à casser un peu sa tirelire sous la pression de l'opinion publique, de ces foules immenses descendues dans les rues aujourd'hui. Angela Merkel s'est adressée à eux en début de conférence de presse.
S'il y a quelque chose qui m'impressionne en tant que scientifique, c'est quand Greta Thunberg dit « unie derrière la science ». Ce n'est pas comme si nous faisions quoi que ce soit d'idéologique ici, mais nous faisons quelque chose contre lequel il y a tellement de preuves que nous devons agir et c'est ce qui nous a guidés.
Le but de ce plan est donc d'atteindre un objectif de 55% de réduction d'émissions de CO2 en 2030, donc dans 10 ans produire deux fois moins de dioxyde de carbone que ce que le pays émet aujourd'hui. L'Allemagne va augmenter sa taxe sur les billets d'avion, elle va à l'inverse baisser celle sur les longs trajets en train, le prix de l'essence et du diesel va aussi augmenter au fil des ans. L'impression générale est que ce plan climat a comme ambition immédiate de solidifier la coalition gouvernementale qui menaçait d'exploser. Elle peut aussi rassurer une partie de l'opinion publique, mais pas les organisateurs des marches du jour, les Fridays for Future, qui ont déjà qualifié ce plan climat de désastreux. La coprésidente des Verts s'est dite amèrement déçue. Il faut aller vite pour le climat. Et là, dit-elle, on a quelque chose de lent, quelque chose de mou et de non contraignant. Un exemple, la création d'une taxe carbone uniquement dans les secteurs de la mobilité et du bâtiment, de 10 euros la tonne à partir de 2021, c'est bien peu, 35 euros à l'horizon 2025. Le gouvernement allemand n'a pas voulu aller vite, c'est certain, avec en tête le mouvement français des Gilets jaunes qui a marqué ici les esprits des dirigeants politiques outre-Rhin qui n'ont pas voulu quelque chose qui apparaisse comme une punition pour les citoyens.
À Berlin pour France Culture, Ludovic Piétenu. Donald Trump, une nouvelle fois inquiété dans une affaire de discussion avec un dirigeant étranger. Selon le Washington Post, un lanceur d'alerte, membre des services américains de renseignement, a effectué le 12 août dernier un signalement officiel auprès de sa hiérarchie. D'après ce lanceur d'alerte, dont on ne connaît pas l'identité, la discussion, probablement concernant la situation en Ukraine, était risquée. Ce que dément cet après-midi, une nouvelle fois, Donald Trump sur Twitter en parlant d'un lanceur d'alerte partiale et d'accusations ridicules. Aux États-Unis, toujours, les réseaux sociaux, sous la pression du pouvoir politique, continuent de faire le ménage dans leurs comptes. Le réseau Twitter, par exemple, vient d'annoncer aujourd'hui même la suppression de milliers de comptes liés à des États étrangers et soupçonnés de répandre de fausses informations. À Washington, Grégory Phillips.
Déjà au printemps, Twitter avait annoncé la suppression de 160 000 comptes accusés de promouvoir le terrorisme. Cet été, 200 000 comptes chinois avaient subi le même sort, soupçonnés d'être des paravents du pouvoir de Pékin pour notamment influer sur la crise de Hong Kong. Le ménage continue avec la suppression de comptes Twitter tenus en Égypte et aux Émirats Arabes Unis, accusés de diffuser de fausses nouvelles et de soutenir de manière dissimulée le pouvoir saoudien. Également supprimé, 259 faux comptes espagnols, apparemment gérés par le Parti populaire. De ce côté-ci de l'Atlantique, Twitter mais aussi Facebook sont sous le feu des critiques et ont promis de tout faire pour repérer les faux comptes et empêcher des puissances étrangères d'influer par ce biais sur des élections. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, était hier encore au Congrès américain, puis reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump pour parler régulation d'Internet.
Grégory Phillips. En Algérie, des milliers de personnes manifestent pour le 31e vendredi consécutif de mobilisation contre le système politique. Le dispositif policier est impressionnant aujourd'hui, a retardé mais n'a pas empêché des milliers d'Algérois, notamment, de défiler dans les rues. L'annonce d'une élection présidentielle en décembre n'y a rien fait non plus. Les manifestants restent déterminés à faire tomber ce régime. Le reportage à Alger de Leïla Berato.
La foule scande qu'elle veut un état civil, pas militaire, qu'elle demande le départ d'Ahmed Gaït Salah et qu'elle refuse les élections. Alina, 39 ans, affirme qu'elle n'ira pas voter.
On ne va pas nous obliger à y aller. On n'ira pas. On n'est pas contre les élections. Mais c'est avec d'autres personnes. Pas avec les mêmes têtes, les mêmes cadres. Non. Ça, on refuse. On est pour des élections. De toute façon, tous les Algériens sont pour les élections, mais pas pour leurs élections.
Dès le début de l'après-midi, ils sont des centaines de milliers dans le cœur de la capitale. Riyad et Sandra ont 40 ans. Sur leurs t-shirts, des plaques d'immatriculation d'autres régions du pays en réaction à l'interdiction faite par le chef d'état-major d'entrer dans la capitale.
Merci Gaït Salah, c'est le meilleur VRP du Hirak. À chaque fois, on est démotivé pour sortir et avec ses discours, on peut être dehors toute la semaine.
Avec les femmes et les enfants, on n'hésite plus. On était plus motivés, on avait la rage, plus que vendredi précédent.
Dans la matinée, des interpellations ont eu lieu, des policiers ont confisqué des drapeaux algériens, mais il en fallait plus pour décourager Amel, 35 ans.
Je sens qu'il y a beaucoup plus de monde, qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne lâchera pas. Je fais ça pour mes enfants, pour une nouvelle Algérie, que tous les corrompus dégagent et qui nous laissent construire une nouvelle Algérie.
En fin de journée, un constat, il n'y avait pas eu autant de manifestants dans la capitale depuis le printemps.
Reportage de Leïla Berato à Alger. En France, le parquet de Bobigny a requis aujourd'hui 3 mois de prison avec sursis contre le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui est poursuivi pour acte d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation. Ça fait suite aux incidents qui ont émaillé la perquisition au siège de son parti en octobre 2018. Au deuxième et dernier jour de ce procès à Bobigny, les parties civiles au procès l'ont appelé à cesser son cirque, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, et ses 5 co-prévenus martèle toujours être victime d'un procès politique. Antoine Maret, bonsoir.
Bonsoir.
En direct avec nous depuis le tribunal de Bobigny, vous avez assisté aux réquisitions et aux plaidoiries aujourd'hui.
Effectivement, Jean-Luc Mélenchon est le seul prévenu contre lequel la procureure requiert une peine de prison avec sursis. Elle estime que son rôle a été décisif, que la rébellion monte d'un cran lorsqu'il arrive. Réaction immédiate du leader de la France insoumise à la mi-journée devant les militants venus le soutenir.
Après m'avoir menacé 10 ans de prison, le réquisitoire est qu'on passe la patate chaude à quelqu'un d'autre. Me voilà avec une demande de 3 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire que quiconque le veut me fasse un procès et on m'enverra tout droit à faire ces 3 mois de prison. Le procureur demande donc que quelqu'un d'autre que lui se charge de demander qu'on m'embastille. On voit la débandade politique de ceux qui sont en arrière-plan de tout ce procès dont nous sortons tous abîmés sur le plan humain et sur le plan institutionnel.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de Jean-Luc Mélenchon s'interroge sur la vidéo produite par l'émission Quotidien. La matérialité des faits est-elle tranchée par des images qui parleraient d'elles-mêmes ? Maître Davy estime qu'il ne faut pas succomber à la facilité de juger sur une vidéo. Les images rendent paresseux. Et pour lui, aucun doute, ce procès est politique car tout le monde fait de la politique dans ce dossier, en particulier le parquet. Il demande la relaxe pour son client. Le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre prochain.
Merci Antoine Maret avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques depuis Bobigny. Un appel à la grève illimitée à la RATP à partir du 5 décembre. Ce sont 5 syndicats de la régie qui appellent à la mobilisation, toujours dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. À l'origine de l'appel, 2 des organisations représentatives à la RATP, l'UNSA et la CFE-CGC. Le tribunal de grande instance de Nice annule sa participation aux journées du patrimoine demain en raison de risques de troubles à l'ordre public liés aux manifestations prévues, notamment dans le cadre des Gilets jaunes. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le parquet de Nice. À Paris, environ 7500 policiers et gendarmes seront déployés dans les rues demain en raison de cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes et alors qu'une marche contre la réforme des retraites doit également avoir lieu en même temps qu'une nouvelle mobilisation pour le climat. Dans ce contexte tendu, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a tenu aujourd'hui à montrer une certaine fermeté.
Vous savez, tous les samedis, il y a des manifestations en France dans le cadre des Gilets jaunes. Mais ce que j'ai vu à Nantes la semaine dernière, à Montpellier il y a 15 jours, ce ne sont pas des Gilets jaunes. Ce sont surtout des gens habillés en noir qui viennent pour casser, pour provoquer. Nous nous sommes préparés pour demain sur Paris, tout en protégeant aussi les monuments dans le cadre des journées du patrimoine. Voilà, c'est une tension que nous connaissons. Et le préfet de police, pour Paris en particulier, a mis en place un dispositif pour sécuriser à la fois le cadre des manifestations qui se dérouleraient. Moi, j'appelle chacun à la responsabilité, au respect et au respect des différentes manifestations qui ont lieu demain. La marche pour le climat, une manifestation syndicale sur les retraites, ce sont des expressions légitimes, des expressions que nous accompagnons et s'il le faut, que nous encadrons et tous les excès seront évidemment sanctionnés.
Quel débouché, quelle possibilité d'orientation pour les titulaires de bacs professionnels et technologiques? La question a été posée ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, inquiète de constater une nouvelle fois que l'immense majorité des recalés de Parcoursup, ils sont 1175 cette année, l'immense majorité d'entre eux provient de ces filières pro et techno, d'où l'annonce d'une réflexion sur la mise en place d'une licence pro en 3 ans qui leur serait réservée, pourquoi pas, mais attention à ce que les les maquettes de ces formations ne soient pas entièrement formatées par les grandes entreprises dans leurs régions respectives. C'est ce que craint, par exemple, Sigrid Girardin. Elle est co-secrétaire du SNUP FSU. Elle est au micro d'Hakim Kasmi.
Nous jugerons si c'est une bonne mesure ou pas, si elle répond aux problèmes des jeunes sur l'ensemble des territoires. En réalité, si son objectif c'est d'améliorer l'accès aux études supérieures des jeunes de lycée professionnel, on verra, on attend les textes pour en juger. Et si ça améliore aussi la réussite de ces jeunes dans l'accès à un diplôme, on actera positivement. Maintenant, je vous avoue être très dubitatif quand j'écoute Madame Vidal qui dit explicitement prendre cette mesure pour répondre aux besoins des entreprises. Entreprises sur des territoires précis. Je trouve ça même assez choquant quand on sait que sa fonction, ce n'est pas d'être une courroie de transmission des entreprises et du MEDEF, mais elle a une mission de service public qui devrait servir en fait l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'ensemble des jeunes. On ne peut pas d'une part parler de justice sociale, de justice territoriale et dans les faits, de faire exactement l'inverse.
Il est 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. Bonsoir Abdelhakel Idrissi.
Bonsoir.
Dans la semaine a été démontrée par la cellule d'investigation la participation de navires saoudiens vendus et entretenus par la France dans le blocus maritime au Yémen. Et en continuant à travailler sur le sujet, vous avez découvert que cette question de l'utilisation de matériel militaire vendu par la France se pose aussi pour d'autres pays, Abdelhak.
Oui, et d'abord en Égypte, un pays géré d'une main de fer par le maréchal Al-Sissi, car là-bas, les forces de sécurité sont accusées par des ONG de commettre des exactions contre des civils dans la région du Sinaï au nom de la lutte antiterroriste, et ils le font en toute impunité, soutient Emeric Elluin, qui a rédigé un rapport sur le sujet pour Amnesty International.
La zone est complètement fermée aux journalistes. Il y a un blackout complet et donc personne n'a accès véritablement à ce qui se passe sur le terrain. Nous, on a documenté, par exemple, des vidéos qui montraient l'exécution extrajudiciaire de personnes civiles.
Et ce que nous avons découvert, c'est que les forces de sécurité égyptiennes utilisent lors de leurs opérations des véhicules de fabrication française. Des véhicules qui ont été vendus à l'armée, mais qui ont ensuite été transmis aux forces de police. Et ça, ça choque Emeric Elluin.
Aujourd'hui, les Égyptiens peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces véhicules. La France a autorisé l'exportation de véhicules à destination du ministère des Armées, alors que ces véhicules ont été documentés ensuite dans les mains des forces de sécurité, et ensuite ils n'ont pas pris en compte le fait que ces véhicules servaient à la répression interne. Et aujourd'hui, on ne peut pas retirer ces véhicules.
Mais Abdelhak, lorsque la France a vendu ces véhicules, elle ne savait pas qu'ils seraient ensuite utilisés pour commettre des exactions.
Non, parce que la France vend à l'armée et pas à la police. Or, c'est la police qui commet surtout ces exactions. Mais en même temps, il est de notoriété publique que l'armée égyptienne transfère ces véhicules à la police. Or, la France s'était engagée, après la répression sanglante de la place Tahrir, à ne plus vendre de matériel qui puisse servir contre des civils. Alors, comment expliquer cette contradiction? Eh bien, pour la journaliste Anne Poiré, auteure du livre « Mon pays vend des armes », c'est parce que l'Égypte est devenue un client important de la France.
Vraiment, l'Égypte est devenue, pour l'industrie de l'armement, un client absolument incontournable. Ce que m'ont expliqué mes sources au ministère des Affaires étrangères, tous m'ont expliqué que l'argument industriel passait avant toutes les considérations politiques et diplomatiques. C'était vraiment, il fallait vendre, et notamment il fallait vendre le Rafale. Voilà, le reste passait derrière. Pour dire les choses de façon plus familière, sur les droits de l'homme, on leur demandait de la fermer.
Et cette problématique, on la retrouve encore au Cameroun, où sous couvert de lutte contre le terrorisme, l'armée se livre à des exactions contre les civils avec du matériel militaire français. Des exactions, là encore, dénoncées par plusieurs ONG.
Et alors, les entreprises qui vendent ces matériels, Abdelhak, peuvent-elles être mises en cause?
Alors, en France, c'est l'État qui a la main sur les autorisations de vente de matériel militaire, mais de plus en plus, des ONG envisagent effectivement de poursuivre les fabricants d'armes en expliquant que leur responsabilité pénale peut être engagée lorsqu'ils vendent à des clients qui bafouent les droits de l'homme. Les fabricants, eux, balayent cet argument. À l'image d'Arnaud Idiard, il est consultant en exportation d'armes.
On fait tout un foin autour des industriels et c'est vrai que c'est plus facile d'aller titiller le lobby militaro-industriel et tout ce qu'on veut. Plutôt que d'aller dire au ministre des Affaires étrangères, écoute, cette affaire de respect des droits de l'homme, l'industriel, vous comprenez bien qu'il est pour rien, hein. Il n'a aucun pouvoir. Si quelqu'un a du pouvoir, c'est effectivement le gouvernement.
Le gouvernement qui nous a expliqué par écrit, je cite, qu'il exerçait un contrôle strict, transparent et responsable des exportations d'armes. Et je précise que ce travail journalistique de traçage des armes françaises a été réalisé en partenariat avec le média néerlandais Lighthouse Reports et Disclose.
Merci Abdelhakel Idrissi, votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Un temps plus agité demain, notamment autour de la Méditerranée où il pleuvra une bonne partie de la journée. Attention au cumul de précipitations parfois conséquents. Ailleurs, ce sera plus calme, notamment sur le quart nord-est du pays avant l'arrivée d'une perturbation pour dimanche. Température minimale demain de 4 à 10 degrés sur les Hauts-de-France et le Grand Est, jusqu'à 20 degrés au sud, les maximales jusqu'à 28 voire 30 degrés dans l'après-midi dans le centre.